Ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Madame Bénédicte Rigouchemin, merci d'être venue aujourd'hui alors que vous avez plein de travail. Vous êtes anthropologue, chercheur associé au LERAS, vous allez nous expliquer, Jean Jaurès, mais en même temps CNRS, sur un axe patrimoine et médiation culturelle. Nous nous étions vus dans une librairie à Toulouse, nous sommes en fait presque collègues à l'université, et vous êtes aussi directrice d'un cabinet que vous avez créé, un cabinet en sciences sociales qui s'appelle Scribe, comme le scribe. Vous acquiescez, et je vous dis bienvenue, parce que vous allez nous parler d'une enquête qui intéressera beaucoup les auditeurs de Radio Présence qui sont à la fois attentifs à ce qui se passe à Lourdes et puis à tous les diocèses qui sont environnants. Votre enquête, elle était orientée vers les catholiques qui viennent à Lourdes, mais ceux qui sont originaires de sociétés africaines, créoles, asiatiques.
Oui, catholiques migrants, oui.
Et déjà, je parle trop, pardon. Dites-nous un peu, vous êtes donc en fait de Bordeaux, puis vous avez fait des études à Paris.
Voilà, j'ai fait une partie de mes études à Bordeaux en ethnologie et ensuite je suis partie à Paris pour finalement revenir ensuite dans le sud-ouest à Toulouse et faire une thèse de doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales puisque nous avions la chance à ce moment-là d'avoir une chaire d'anthropologie du religieux avec Jean-Pierre Albert et donc j'ai présenté un sujet de thèse à ce moment-là, en 2005.
Alors, Jean-Pierre Albert, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas profondément catholique ni chrétien, mais en même temps, il est passionné par ces questions de religion. Il a écrit un gros livre, En odeur de sainteté.
En odeur de sainteté.
C'est magnifique, oui. C'est un beau programme.
Oui, oui, c'est un homme passionnant et c'est un homme pluriel. Il a effectivement baigné dans la culture catholique dont il s'est détaché ensuite, mais cela lui donne une suffisamment de distance pour pouvoir apprécier sans jamais juger, donc dans une vraie posture d'anthropologue, tous les sujets qui concernent le religieux, qu'il soit traditionnel ou beaucoup plus contemporain dans l'esprit de la sociologie des religions.
Alors, ce qui m'intéressait chez vous, c'est ce qui m'a été reproché très longtemps en sociologie, mais vous allez me dire, mais non, mais les anthropologues, c'est autre chose. On peut parler du religieux en étant d'une religion, d'une confession particulière, parce que de l'intérieur, on peut comprendre, et moi, je vais vous dire, mais alors, avez-vous cet aspect critique qui fait qu'on peut prendre de la distance par rapport à son sujet d'étude. Parce que moi, on m'a dit, mais toi, tu es de telle religion ou confession supposée, donc tu ne peux pas parler de cela parce que tu n'auras pas la distance critique dont parlent Durkheim, Weber et les autres.
Mais en fait, moi, j'ai pris le parti assez jeune durant mes études d'associer la discipline à laquelle j'étais formée à l'environnement dans lequel j'avais vécu, l'environnement culturel. Et très, très rapidement, j'ai eu envie d'établir des passerelles entre cette discipline d'observation et d'analyse du contemporain avec l'environnement paroissial dans lequel j'évoluais.
Et familial, puisqu'il faut le dire, voilà. Vous êtes d'une famille profondément croyante
et
militaire. Nous y reviendrons. Et militaire.
Et militaire, tout ça.
Avec un engagement. Donc, ma foi, j'y crois. C'est un engagement dans la cité, mais un engagement aussi le plus honnête, le plus rigoureux possible au niveau scientifique pour étudier le fait religieux ou les représentations religieuses, d'où Lourdes.
Absolument, oui.
Alors cette enquête.
Cette enquête, d'abord, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche. Elle avait été pilotée par Valérie Aubourg, qui est anthropologue du religieux à Lyon et doyen de la faculté catholique. Et elle avait pour but d'observer le lien entre les catholiques migrants et le religieux. à quel moment les catholiques migrants mobilisent le religieux dans leur parcours migratoire. Donc c'était un double regard porté à la fois sur le religieux et sur la migration. Et donc des études ont été menées principalement à Lyon et à Paris en 2019-2020. Et puis, parmi les enquêtes de mes collègues, est apparu le fait que la pratique du pèlerinage était importante, c'était quelque chose de mobilisé par les pèlerins migrants. Et donc, s'est imposée l'idée, qui n'avait pas été pensée au départ, de faire une enquête au sein du sanctuaire de Lourdes. Pour la petite anecdote, cette enquête a été menée, a démarré au moment du premier confinement, alors que le sanctuaire vivait une fermeture tout à fait exceptionnelle. Et il m'a fallu faire preuve d'imagination et d'agilité pour penser le travail de terrain autrement, c'est-à-dire en dehors du sanctuaire, mais tout en continuant à rencontrer la population qui m'intéressait d'observer. Donc pour cela, je suis passée par les associations qui accueillent les migrants, donc le Secours catholique, le pèlerinage mosaïque des Assomptionnistes, des proches aussi de l'association Welcome.
Welcome, c'est les jésuites qui accueillent ces migrants.
Voilà, c'est ça, dans des familles, qui les logent.
Sans qu'elles restent trop longtemps. Absolument. Dans ces familles, pour éviter justement qu'elles s'incrustent.
Voilà, voilà.
Alors, il y a un mot que vous utilisez, qui semblerait peut-être un gros mot, mais on parle d'acculturation, parce qu'il y a justement une hypothèse. Quand on fait une science, une démarche rigoureuse scientifique, on pose des hypothèses et on essaie de vérifier si cette hypothèse se réalise dans les faits. Alors, parce que vous n'arrivez pas la première pour étudier le fait religieux. Alors, quand vous parlez d'une acculturation à la religion dominante, oui, c'est que ces catholiques ou ces chrétiens qui viennent à Lourdes, ils ont déjà une petite idée parce que dans leur pays, il y a des grottes de Marie et ils ont entendu parler de Bernadette, mais ils vont être en fait une population invisible et en même temps visible par leur couleur ou par leur langage. Ils doivent faire un gros effort, on va dire, d'acculturation à la société qui n'est pas la leur, puisqu'ils viennent d'ailleurs de l'Europe, outre-mer.
Oui, tout à fait. Ils ont ils ont leur propre manière de pratiquer le religieux dans leur pays et ils viennent au cours de leur parcours migratoire, ils mobilisent cette pratique religieuse. Et lorsqu'ils posent leur valise en arrivant, alors à Toulouse par exemple, certains vont continuer à pratiquer, d'autres non, d'autres vont être pris un peu au dépourvu et vont être sollicités par d'autres courants. Et moi, il était intéressant pour moi de comprendre comment des populations venant majoritairement d'Afrique, hein, pour les personnes que j'ai rencontrées, ce que Lourdes représentait pour eux et pourquoi c'était important. Effectivement, vous l'avez mentionné, Benoît, dans leur pays, différents pays d'Afrique, il y a souvent des représentations de Lourdes et c'est vraiment la consécration d'un parcours de chrétien que de venir pèleriner dans ce lieu. Donc l'objet de l'enquête, c'était de montrer les ressorts d'un pèlerinage, comment la personne va l'effectuer, souvent d'ailleurs grâce à une personne ressource qui va lui donner de quoi payer son voyage,
le billet,
ou une idée de logement, ou l'emmener en voiture. C'est le cas, c'est présenté, un prêtre comme ça qui emmène deux trois pèlerins avec lui pour passer la journée et pour découvrir ce site qu'ils connaissent avec le cœur. cœur, mais qu'ils n'ont jamais touché, expérimenté. Et on sait combien il est important de d'être sur place et de pouvoir toucher, boire l'eau de la source. Et donc, ils viennent se régénérer, faire une halte, en fait, faire
vous
une
êtes
halte réparatrice.
Rationaliste, vous cherchez une certaine distance par rapport à... aux actes des personnes. Vous ne pouvez pas aller dans l'intimité des consciences et savoir, certains vont dire c'est de la superstition, c'est la méthode Coué, on allume un cierge mais on n'y croit pas, d'autres vont dire si, ils y croient, mais autrement que nous. Alors cette question de l'intimité ou de ce qu'on pourrait appeler la superstition, je ne vais pas vous demander quelles sont vos propres croyances, si vous allumez des cierges ou si vous signez avec de l'eau dite bénite, mais l'anthropologue, est-ce qu'il croit à ce que les personnes disent? Ceux qui pratiquent sans croire ou ceux qui croient sans pratiquer? Vous voyez, bon, les intellectuels, ils coupent la poire en deux ou bien... Il cherche.
En fait, le...
vous cherchez quoi en fait?
Je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre les ressorts d'un individu lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'un sanctuaire. Ce que représente la religion pour lui. Quels sont les signes qu'il va faire? Quels sont les usages, les pratiques qu'il va développer et qui vont donner du sens à sa croyance, enfin à sa foi. Donc moi, il m'importe peu de savoir, enfin, dans cette discussion, il importe...
S'ils sont sincères ou pas, par exemple.
Non, je ne mets pas en doute leur parole. S'ils veulent me raconter des balivernes, c'est dommage. Mais ça ne s'est jamais produit. En réalité, ce qui est important dans cette démarche anthropologique qui est basée sur des outils bien, bien précis, et en particulier celui de l'entretien semi-directif, qui permet dans un cadre assez intime, c'est-à-dire à l'écart, à l'écart du sanctuaire, on prend le temps de parler ensemble. Moi, dans la boîte à outils de l'anthropologue, il y a l'art de savoir poser les questions, poser les bonnes questions, toujours ouvertes. Et la récolte de ce témoignage, de cette parole vivante, permet ensuite, en comparaison les unes des autres, de mesurer les invariants, c'est-à-dire les choses qui se répètent.
Quels que soient les âges,
hommes
ou femmes.
Quels que soient les âges, quels que soient, oui, tout à fait, le genre.
Et l'origine.
Et en même temps, les bénéfices qui sont propres à chacun. Voilà. Et donc, le rôle de l'anthropologue, c'est vraiment de comprendre... par le biais de la parole, les ressorts sous-jacents d'une démarche religieuse, culturelle, sociale. Voilà, et c'est ce qui m'a amenée à Lourdes. Et j'ai mobilisé pour cette étude un concept et un auteur, un sociologue, Marcel Boldebal. Là, je fais un petit clin d'œil à Marie-Claude Lutran, qui était ma collègue à l'Institut catholique de Toulouse, qui m'avait fait découvrir cet auteur. Et Marcel Boldebal mobilise le concept de reliance, justement pour expliquer l'origine des liens qui se créent dans des relations interpersonnelles lorsque celles-ci se recomposent. Et précisément, les migrants qui arrivent à Lourdes, ils ont laissé derrière eux leur maison, leur famille, leur histoire, leur village. Ils sont obligés de recomposer au cours de leur processus migratoire une nouvelle histoire, ce qu'ils nomment d'ailleurs, un terme qui nous est commun, un récit de vie. Et donc, sous cet angle de la reliance, j'ai essayé d'expliquer quels étaient les liens qui se nouaient au sein du sanctuaire. Donc, il y a à la fois des liens avec le divin et avec la Vierge Marie. Il y a des liens avec le monde, et notamment le monde, hein, le monde large. En particulier par le biais des signes que l'on pose, c'est-à-dire allumer un cierge, boire de l'eau, ramener de l'eau, aller se baigner dans les piscines. Et puis c'est également un signe de ralliement à soi-même, puisque justement les témoignages ont montré que à Lourdes, vraiment, les gens se reconnectaient à eux-mêmes.
Ils cherchent l'étoile. C'est pour ça que vous nous avez apporté un chant dont vous allez nous parler, parce qu'une de vos autres casquettes, c'est d'être officier de réserve à l'Institut des hautes études de la France nationale. Certains comprendront pourquoi vous avez choisi des padres qui nous chantent et qui marchent vers l'étoile, la première en chemin, Marie. Alors, le sociologue agnostique va dire, mais est-ce que Marie est vraiment apparue? Et vous allez répondre, je le sais, que Bernadette n'est pas là pour nous faire croire, mais pour nous le dire. Mm-hmm. Mais pour l'instant, nous écoutons ce chant de ces militaires qui donnent toute leur foi pour la patrie, nous parlerons de la laïcité plus tard, mais aussi pour la transcendance, ce qui nous appelle à être meilleurs.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Avec Bénédicte Rigouchemin, vous êtes anthropologue, chercheuse associée au LERAS, et vous travaillez sur les médiations culturelles. Vous venez nous parler de Lourdes, de votre enquête, et aussi de ce que vous faites maintenant dans votre cabinet d'études que vous avez créé, qui s'appelle Scribe. Donc, nous étions partis de ce chant « Regard de l'étoile » et cela nous interroge sur la foi, l'intimité de ces personnes qui viennent chercher la paix et qui viennent chercher la force de vivre. Parfois, mm-hmm. ils ont subi des difficultés mm-hmm. et c'est une forme de résilience. Donc, il y a une croyance qui n'est pas pour vous superstition.
Non, ce n'est pas superstition et je bon cette étude elle est vraiment teintée de parcours biographique, donc c'est-à-dire qu'elle s'inscrit pour moi derrière cette étude il y a d'abord des visages, il y a des récits, plusieurs prénoms, Arsène, Marie-Louise, Chantal, enfin je les vois tous et ils ont chacun un rapport au religieux qui est différent en fonction de leur propre culture. Et surtout, ils savent bien dissocier parce que c'est, je crois, très pédagogique à Lourdes. Ils font bien la différence entre leur propre démarche de foi et les signes qu'ils posent. Et je me souviens d'un dialogue disant « Mais je sais bien que mettre un cierge, ça ne va pas me porter chance, c'est pas de la magie. En revanche, quand je mets mon cierge, parce que c'est le symbole que Marie a demandé à Bernadette de mettre, eh bien, dans la fumée du cierge, il y a tout mon village, tout mon pays, tous mes ancêtres.
Et puis, il y a la lumière qui éclaire, peut-être, qui montre la route.
Oui, qui montre la route, l'espérance, dont ces personnes au parcours compliqué et souvent très lourd. Hein. Certaines sont encore sans papier, donc dans des situations complexes.
Et vous avez cité des prénoms catholiques, des prénoms croyants, mais vous avez interviewé aussi quelques musulmans pour qui Marie est un personnage d'ailleurs qui est cité dans le Coran et qui unit parfois les mères qui parlent. Mais votre échantillon était peut-être plus limité. Alors, vous n'avez pas interrogé des médecins, des infirmières, des auxiliaires de puéricultrices qui auraient pu vous aider?
Non, parce que c'était pas l'objet de la recherche. C'était
voilà.
Vraiment.
Mais c'est pour un autre travail.
C'était vraiment circonscrit à ceux qui sont en route et pour fonder leur nouvelle histoire. Alors je n'ai pas rencontré d'autres confessions directement, mais je me suis beaucoup intéressée et j'ai discuté longuement avec le directeur de la cité Saint-Pierre. Et je sais qu'il y a là une mixité sociale, une mixité culturelle, que toutes les religions y sont accueillies et mises en valeur par le biais de soirées justement où chacun peut exprimer sa foi dans sa langue, donc c'est un lieu que j'ai trouvé assez
la nouvelle Pentecôte
assez magnifique, voilà, et je sais que c'est aussi la cité Saint-Pierre, c'est aussi un lieu de reconstruction pour ces gens qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus que leur cœur pour parler et qui viennent trouver là du réconfort et une vie souvent d'abord fraternelle. Et je me souviens des propos du père Éric Sanson, l'aumônier du pèlerinage des Assomptionnistes, qui disait c'est d'abord la fraternité, d'abord la construction de l'individu, avant même le religieux, c'est l'accueil que l'on va faire à la personne. Et ça se vit très fortement à la cité Saint-Pierre, ça.
Alors, il y a aussi religions qui sont peut-être un peu plus critiques envers la figure de Marie. On a parlé parfois de mariolâtrie ou bien de tous ces bibelots qui sont vendus en dehors du sanctuaire, mais on sait que les catholiques qui viennent d'Afrique, ils ont d'autres formes de prier, de chanter, parfois proches des églises évangéliques ou de certains baptistes ou d'autres évangéliques. Donc, c'est la question en France que d'autres religions envahissent la scène, le paysage culturel, médiatique. Vous ne voyez pas d'opposition entre ces différentes formes?
Je crois qu'il y a différentes façons de pratiquer sa religion. Ce que vous appelez la mariolâtrie, moi je l'associe aux religieux populaires.
Oui.
Les statues de vierges, les cartes postales, les chapelets phosphorescents, c'est un sujet dans le sujet. Il y aurait mille façons, et d'ailleurs je crois que ça a déjà été exploré par d'autres collègues chercheurs. Et je crois que c'est important que ça existe. Après, il ne m'appartient pas de dire si c'est de mon goût ou pas de mon goût. Mais
sinon, il y aura d'autres formes encore plus irrationnelles, peut-être, qui vont envahir si nous pensons à tous ceux qui réfléchissent à une vie après la mort, indépendamment des anges ou du diable. Nous sommes aussi dans un autre champ d'études pour l'anthropologue. Mais ça, c'est peut-être, vous allez revenir quand vous allez nous parler de vos travaux de scribe dans votre laboratoire, puisqu'il reste à peine une minute. Et vous aviez dit aussi que c'est important de relier à des phrases de l'Évangile. Je pense à une phrase, bon, de toute façon, je te bénis, je te rends grâce, Père, parce que tu as caché cela aux sages et aux savants. Vous êtes, vous, une savante? vous cherchiez une sagesse.
Alors,
mais vous l'as, tu l'as révélée au mon père, au tout petit. Et vous nous avez apporté un psaume pour dire qu'il y a aussi la prière et la poésie. Il n'y a pas que la rationalité.
Non, certainement pas. Mais on a besoin de rationalité pour être un scientifique, ce qui n'empêche pas aussi d'avoir une vie métaphysique. Et j'aime beaucoup le psaume 8, parce qu'il m'anime depuis longtemps. Je pense même qu'il est un peu le fil conducteur de mon parcours de foi et de mon parcours de scientifique. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de Dieu, pour que tu comptes avec lui? Pour moi, c'est un psaume en forme de question ouverte. C'est aussi la manière dont je pratique mon métier. Et puis, qui présente l'homme comme un mystère. Et pour moi, mon interlocuteur, celui qui est en face de moi, celui qui m'apporte la connaissance, c'est toujours un homme à découvrir. C'est toujours un mystère à éluder. Donc, j'aime beaucoup ce psaume.
Et vous êtes officier de réserve. Vous êtes militaire.
Oui, mais de réserve. J'ai un engagement dans la réserve citoyenne au sein de la gendarmerie nationale. Voilà, ça c'est plus par atavisme familial et une manière aussi de s'engager dans la société parce que ça, c'est une façon de compléter un parcours personnel.
Je demande à tout le monde est-ce qu'ils ont des héros, des saints ou des saintes qui les inspirent ou à qui parfois peut-être ils se réfèrent. Je pense que vous pouvez aussi chanter ce psaume 33, un pauvre cri, le Seigneur entend, et Marie qui défait les nœuds, c'est celle aussi qui permet à certaines personnes de reprendre force. Nous pouvons, en cette fin d'année, je crois, bénir Dieu, si nous sommes croyants, de toute la richesse de ces personnes qui sont venues parler sur cette antenne, et aussi de toutes ces vies que vous avez vues, l'action de grâce peut-être, de ce qui se vit là-bas à Lourdes, alors que l'on soit croyant ou pas, cette manière de...
croiser des individus. Et ce que je trouve formidable aussi, et que j'aimerais souligner, c'est que dans la recherche académique, le religieux a toute sa place. Il n'est pas considéré comme un objet de déni, ni sans intérêt. Et au contraire...
Nous vous rappellerons, parce que Christophe... que je remercie ici, nous dit « Mais non, vous avez dépassé le temps d'antenne, il faudrait que vous reveniez. » Et en tout cas, merci aux auditeurs pour leur écoute attentive en cette émission. Ma foi, j'y crois. À l'année prochaine. Et merci Bénédicte.
Merci.